Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussy.
Il est 11h05, vous êtes bien dans les grandes gueules du sport avec Marion Bartoli, Simon Dutin, Denis Charvet et Cédric Aymon. C'est la dernière heure. Déjà, on parlera de Max Verstappen sur le buzzer tout à l'heure, qui a délaissé le baquet de la F1 pendant la trêve pour aller faire une course d'endurance. Et on terminera bien sûr par les jeux du sport. Et vu en plus l'état de mes GG ce matin, je sens que ça va être épique.
Je sens que je vais être catastrophique.
Et Marion ne pourra pas tricher, elle est en studio.
J'avais entendu, donc c'est vrai.
Quand cette rumeur.
Quand je suis à la maison, j'ai 15 secondes de délai, si tu veux. Donc vous allez entendre répondre en studio. J'ai même pas eu le temps d'entendre la question, j'ai déjà répondu.
C'est
impossible de jouer.
On va voir ton vrai niveau.
De toute façon, je déclare forfait.
On vous rappelle.
J'ai la voiture de Roland-Garros qui m'attend, je peux pas jouer dans les jeux.
On vous rappelle qu'il a gagné via votre party box portable Bluetooth de la marque française Muse, une enceinte puissante avec lumière d'ambiance multicolore et un micro filaire pour la remporter. Vous appelez le 3216 touche 4 ou vous envoyez sport au 73216. Sport au 73216. Bonne chance à tous. 11h07 bientôt sur RMC. Il est l'heure d'ouvrir le vestiaire des GG.
RMC, le vestiaire des GG.
Le vestiaire, justement, lieu tellement particulier où beaucoup de choses se passent. Parfois, elles restent secrètes et internes au vestiaire. Et puis, parfois, tout éclate dans la presse, à l'image de Naïsna. Les GG, vous allez nous raconter votre vestiaire, les moments forts que vous y avez vécus et qui font que c'est un lieu à part, surtout pour un sportif. Denis, je me tourne vers toi. Je me doute que dans un sport collectif encore plus, ce qui se passe dans un vestiaire, que ce soit à la mi-temps ou avant les matchs ou même après, c'est toujours très, très intense.
C'est sacré. Oui, c'est pour nous, c'est le rendez-vous où personne n'a le droit de rentrer et où rien ne doit sortir. C'est surtout ça, quoi. Là, il y a la parole, elle est sacrée. Et
c'est une sorte de pacte.
C'est quand on dit on lave notre linge sale en famille, c'est exactement ça. En fait,
il y a deux choses. Il y a le vestiaire d'entraînement où beaucoup de choses se règlent. Il y a le vestiaire où j'aime l'approche. De la chaîne qui diffuse le rugby.
Canal+, tu peux dire effectivement qu'il y a mis
Il y a de la retenue quand même avec Canal, ce qui est bien, c'est que t'as accès au vestiaire et en même temps, tout n'est pas retenu. Parfois, c'est un peu trop, too much. Moi, parfois, ça me dérange.
Ah, pas moi. C'est bien traité. Mais par contre, le vestiaire d'entraînement, il est sacré pour moi. Celui-là, il a...
Ce que tu appelles le vestiaire d'entraînement,
c'est le vestiaire de la quotidienneté, de vestiaire de tous les jours, où là, les choses se disent, se règlent, on s'explique. Et celui-là, il ne faut jamais qu'il y ait de caméra, de micro. Et c'est pour ça que souvent, ça fuite, c'est dans les vestiaires d'entraînement. Parce que là... Là, ça peut aller loin dans des grosses explications, dans des prises de position, des prises de parole. Le jour du match, il peut y avoir de coups de gueule de la part d'un coach ou un petit accrochage. Mais pour moi, il y a deux choses. Il y a vraiment deux choses différentes. La quotidienneté, pour avoir vécu 10 ans dans le vestiaire du stade, des fois, c'était pas simple. Hein,
raconte-nous, justement, c'est quoi ? C'est des explications ?
Pourtant, est-ce qu'on reste... Guy, il est souple, pourtant.
Non, ça m'étonne. Guy Noves. Oui, Guy Noves. Mais,
ça m'étonne, ce que tu dis.
Moi, qui
joue avec lui.
Non, où Guy rentre dans le vestiaire, par exemple, et nous, on est en train de s'expliquer, et les leaders disent, non, Guy, tu sors, parce que là, nous, on a vraiment besoin...
Ah, vous avez demandé au coach de quitter le vestiaire ?
De s'expliquer entre nous.
Ok. Ouais,
y a eu les leaders, je me rappelle d'une prise de parole de Fabien ou sa Fabien Pelousse où on était dans une mauvaise période et là on doit être entre nous. Là ça s'explique. Des accrochages, il y en a eu, des remises en question, il y en a eu, des petits coups drôles, humoristiques, il y en a aussi. Et ça appartient au vestiaire. Vraiment, vraiment, ça c'est sacré. C'est pour ça que je suis très étonné et ça m'agace quand les infos viennent dans la semaine parce que c'est les joueurs qui racontent à des...
Mais en rugby,
à la
ça presse. Pas trop, hein, quand même.
Ça commence.
Il n'y a pas trop de...
Ça commence.
Le lien avec les journalistes.
La différence avec le football, nous, le sport collectif, mais on a besoin du petit copain.
Exactement. Denis a raison. C'est le joueur qui est au service du collectif et le collectif le rend au joueur. Donc, tu as besoin. Et quand tu rentres sur un terrain de rugby, tu as une part de peur, d'appréhension et tu as les copains qui te rassurent. Et c'est pour ça, quand Denis disait tout à l'heure, on lave notre linge sale en famille, ça, on a besoin de se l'expliquer, de se le dire au bout d'un moment, parce qu'on est un sport de contact, on a besoin de cette confrontation, de remettre l'église au milieu du village.
Oui, c'est pas négatif, au contraire.
Non. C'est vraiment toutes les vérités.
Ça reste en famille, c'est-à-dire que ça sort pas du vestiaire, ça sort pas du cadre sportif, et ça, il faut que tout ça, ça tisse les liens, en fait. C'est nous, on a besoin d'être aimé, de se sentir aimé, c'est très, comment dire, charnel, le rugby. Non, mais c'est vrai, tu peux pas rentrer sur un terrain de rugby. Puis il y a pas beaucoup de, enfin il y en a pas même de brebis galeuses, c'est vrai, dans le rugby c'est difficile.
Ah ben est-ce que Denis, elles sont réglées
avant,
réglées dans le vestiaire, oui, voilà, donc, sans aller trop loin. Celui qui parle, celui qui balance, celui qui se comporte pas bien, il est réglé dans le vestiaire.
Non, mais il sort.
Et après le vestiaire où on s'est expliqué, il y a le terrain de jeu. Et là, il peut être réglé.
Et Nasna, ouais, c'est bon ça. Nice directement nice chez.
Ouais, c'est parti, ça, à mon avis, tu l'as.
À peu près.
Ouais, voilà. Nasna. Ça peut pas arriver en rugby.
Tu crois que jamais ça pourrait.
Jamais.
Déjà, rugby, le respect de l'institution.
Mais regarde l'histoire du rugby dans l'équipe de France. Il y a eu des histoires en équipe de France. Cédric en a vécu. J'en ai vécu. Des trucs un peu costauds, quoi. Des trucs difficiles à vivre. Mais c'est jamais sorti.
Pas. Tout est resté en interne.
Ouais,
il y a des choses, mais ça sortira même pas là. Hein.
Ça sortira. Non, mais je veux dire.
J'essaye de vous cuisiner un petit peu, mais
c'est vrai ce que je dis. Il y a eu des moments pénibles, mais Cédric en avait vécu un, on le sait, mais on va pas l'étaler et le dire. Tu vois, jamais il se permettra, jamais il en a parlé. Je sais qu'il en a souffert.
Donc même maintenant que c'est des années derrière toi, que tu n'es plus justement dans ce vestiaire, ça reste quelque chose de presque sacré finalement, où tu ne trahiras pas justement ce pacte, on a envie de dire, entre joueurs.
Non, parce que on n'est pas tous amis, c'est pas non plus le monde des bisounours.
On est éduqués comme ça.
Mais ouais, voilà, par notre éducation, ce qui s'y passe, ça reste.
On grandit comme ça avec cette éducation.
Avec ces valeurs-là. Ouais,
avec cet esprit de famille, on doit s'auto-protéger. Mm-hmm. On doit vraiment s'auto-protéger. Alors. Je le redis, c'est pas le monde des bisounours, on n'est pas tous copains, c'est pas vrai, mais les vestiaires forts, c'est les vestiaires qui gagnent, c'est les vestiaires qui renversent des situations, c'est les vestiaires qui peuvent s'auto-gérer. Et là, le sélectionneur, il est juste, ou l'entraîneur plutôt, pas sélectionneur, mais il est là pour veiller à ça, faire la composition d'équipe. Mais je vous dis.
Et garder l'esprit.
Et l'esprit, l'ADN d'un club, c'est ça, c'est, il y a des garants, il y a ceux qui s'expliquent de temps en temps. Mais quand je vous dis s'expliquer, ça peut être violent, hein.
Ouais.
Ça peut être des accrochages, ça peut être des bagarres.
Physique,
ça peut être,
ah oui.
Ouais, bien sûr. Oui, ça peut aller loin. C'est ce que je disais tout à l'heure,
ouais. Ah ouais, non, bien sûr.
Et ça se règle en interne, mais et après alors, une
je vais
fois
te raconter,
fait, c'est
à la Coupe du Monde, vas-y, je dirais pas les joueurs, mais en 87, première Coupe du Monde, il y a deux joueurs qui sont battus à l'entraînement.
D'accord.
Et on les a regardés se battre. Puis à un moment donné, ils se sont arrêtés.
Mais bien sûr,
ça va loin quand même. Quand tu dis, ça,
c'est arrivé plusieurs fois parce que la concurrence, elle est telle que, en plus, t'es dans des périodes où l'excitation est au maximum. Les accrochages d'entraînement, ça se règle. Les deux joueurs s'expliquent. Si ça va trop loin, bien sûr.
Et l'orgueil du champion aussi.
Exactement, mais on se serre la main, c'est fini et puis c'est réglé quoi.
Simon, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, mais le vestiaire évidemment pour nous, je parle de toi, moi, Flora et tous nos consoeurs, nos confrères, c'est un substantif qui est devenu un mythe quoi. C'est vraiment à tous les sports parce qu'on parle pas que de la pièce où il y a les bancs, les casiers et tout. Même si c'est très important au niveau rien que matériel quand tu vois les efforts que font les clubs lorsqu'ils refont justement ces installations. Mais quand on parle de vestiaire, évidemment, tu vois, Denis parlait d'une bagarre à l'entraînement. Le vestiaire, c'est un concept plus qu'un lieu. Et c'est une sorte, pour le commun des mortels, de multiverse. Quoi. C'est un univers parallèle parce que dans le vestiaire.
C'est presque religieux.
Nous, on n'a pas le droit. Totalement. Alors, parfois, il y a les fuites, évidemment, les proverbiales taupes, tu sais, qui ont des comptes à régler avec certains et machin et qui font donc fuiter des infos. Mais dans le vestiaire, en gros, tu vois qui est blessé, tu vois qui joue alors qu'il est déprimé à la maison, qui a des
souffres, tu vois la souffrance de ton partenaire,
qui est insupportable, qui est sympa, qui est généreux, qui est égoïste, qui en a quelque chose à foutre du
reste. Ça peut en dire long effectivement.
Et c'est à la fois le ciment, le miroir déformant, et c'est la vérité d'un groupe. Après, tu sors du vestiaire. vestiaire, libre à toi de sourire et de te dire ah, on est tous copains et tout machin. Et c'est pour ça que c'est un concept pour nous observateurs vraiment mythique.
Il y a souvent deux vestiaires, il y a le vestiaire d'entraînement, il y a le vestiaire de match. Par exemple au Stade Toulousain, tu avais un vestiaire même encore aujourd'hui où c'est le centre d'entraînement, et le vestiaire de match, il est encore plus sacré.
Il y a un cérémonial.
Il y a un cérémonial, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'y aller si tu n'es pas convoqué pour jouer le week-end.
D'accord. Ah oui, oui. Il y a, oui, oui. Effectivement, quand tu parlais de quelque chose de presque religieux, c'est
oui,
clair.
Oui, exactement. Alors,
on a parlé... juste pour ajouter, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a une partie, une dimension rituelle, en fait, parce oui. que il y a, je parle souvent de
mystique, tu l'as dit. Hein.
Ouais, et puis, une sorte de, comment dire, une hiérarchie, un pouvoir
à respecter,
informel,
absolument. Il y a des règles à respecter.
Peut-être pas de la même façon devant les caméras,
sur
les...
terrain, on a vu des, et j'ai vu des joueurs, magnifique, avoir des larmes aux yeux, des choses qui...
D'émotions,
mais ça, j'espère que jamais ça sortira, parce que les mots qui sont dits à ce moment-là sont tellement puissants, sont tellement intenses, même des... Alors, je dirais pas jusqu'à la vie privée, mais des fois, ça va loin pour savoir pour qui on joue, comment on se motive, comment on arrive à mettre toute cette énergie collective au centre du débat et de la motivation.
Alors, c'est intéressant parce qu'on parle de collectif depuis tout à l'heure. Donc, je me tourne évidemment vers Marion qui est dans un sport individuel. C'est particulier aussi le vestiaire dans le tennis. On voit parfois, il y a des caméras de plus en plus dans les vestiaires. Effectivement, on le voit à Roland-Garros, on voit les joueurs se croiser. On voit comment toi, tu vivais ça, parce que c'est une atmosphère très particulière où toi, tu te retrouves seul et tu croises tes adversaires en plus.
Exactement. Et en fait, il y a deux vestiaires. Il y a les vestiaires sur tous les tournois individuels qu'on joue quasiment toute l'année. Et puis, il y a le vestiaire de l'équipe de France où là, c'est totalement différent.
Ouais.
C'est une ambiance totalement différente parce que là, on est bien sûr tous en train de vouloir gagner pour son équipe. C'est une atmosphère bien plus bienveillante où chacun est là pour aider l'autre, pour essayer de faire regagner la rencontre pour l'équipe de France à la fin du week-end. Donc effectivement, les deux ambiances, deux salles, deux ambiances, vraiment là pour le coup. Et ce qui est très particulier dans les vestiaires de tennis, c'est qu'en fait, tu croises ton futur adversaire jusqu'à quelques secondes avant de rentrer sur le terrain. Alors moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a une énorme évolution. Parce que pour être très honnête, à mon époque, c'était vraiment... c'était la Kalachnikov, quoi, dans le regard, c'est boum! Tu prenais des balles partout. Tu
étais plus du style à tenir le regard, justement.
Jamais lâcher le regard. Jamais lâcher le regard. Vraiment, jamais lâcher le regard. Alors que maintenant, je vois dans l'interaction, il y a quand même beaucoup plus de camaraderie. Mais tu le vois avec Sinner et Alcaraz, qui se font un check, qui se tapent dans la main juste avant de rentrer sur le court central de la finale de Roland-Garros. Par exemple, l'année dernière, on voit les caméras vraiment qui sont au plus proche des acteurs jusqu'à quelques secondes avant de prendre les escaliers et rentrer
Marion,
sur le terrain.
Je suis d'accord avec toi, mais dans le tennis, et c'est un sport que j'adore, hein, mais si tu n'as pas cette notion de physique, de combat corps à corps où tu peux...
Mais c'est un combat psychologique, c'est énorme pendant 4-5 heures.
C'est pas ce que je dis. C'est que,
t'es en face à face.
C'est psychologique. Nous, on a ce combat physique.
Bien sûr, mais la différence, c'est que vous êtes un collectif qui allait rentrer ensemble pour affronter notre équipe.
Oui,
t'as ton propre duel, par exemple.
Oui, mais tu n'es pas dans le même vestiaire avec ton duel.
Non, on est d'accord.
Nous, l'immense différence, si tu veux, c'est que dans un tableau du Grand Chelem, au départ, t'es 128. Donc tu partages une pièce qui est quand même, alors même si les vestiaires ont été agrandis, mais auparavant c'est quand même assez petit. T'es 128 joueurs regroupés dans un espace qui est quand même assez réduit, et t'es en capacité de jouer la personne qui est assise à côté de toi, qui est en train de se changer, mettre sa tenue de match, tu vas la jouer 5 minutes plus tard, et puis ta future adversaire, si jamais tu gagnes, bah tu la croises en train de faire autre chose. Et en fait, t'as cette espèce de, tu partages des moments d'intimité pendant 15 jours avec tes futurs adversaires qui sont là uniquement pour une seule chose, c'est de battre, parce qu'il faut quand même bien se rendre compte. Donc effectivement, c'est une ambiance très particulière. Et alors, pour l'avoir vécu personnellement chez les jeunes, où à l'époque, ben, t'as pas de vestiaire fermé parce que t'as pas de casier avec un cadenas pour... ben, tu te fais piquer tes affaires, tu te fais casser la raquette, mais bien sûr, tu te fais couper tes cordages de la raquette. Moi, je me suis fait déchirer ma paire de chaussures.
Les lacets, les
cordes. Moi, je me suis fait déchirer ma paire de chaussures, la semelle de ma paire de chaussures. Donc,
par Steffi Graf.
Je pense que les juniors, quand on n'a pas d'argent et qu'on essaye de se battre pour rien gagner, parce qu'il n'y a pas de prize money, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Et tu essayes juste de sortir de ce marasme pour essayer d'être professionnel. Et en fait, c'est là les pires ambiances, parce que là, tout est permis, mais absolument tout est permis. Donc, bien évidemment, c'est impossible de savoir qui te l'a fait. Et donc, tu deviens complètement parano. C'est-à-dire que tu gardes tes affaires avec toi. Tu fais attention que si jamais tu vas te doucher, bah, le sac, tu le donnes à ton entraîneur ou à ton parent pour pas que tu laisses quelque chose parce qu'éventuellement, bah, soit on va te le voler, soit on va te l'abîmer. Il y a eu aussi beaucoup aujourd'hui, surtout avec les bouteilles d'eau, où tu fais attention à ce que la bouteille soit toujours fermée, ouais, que la bouteille soit pas ouverte parce qu'on sait jamais ce qu'on peut mettre dedans. Donc, c'est quand même des ambiances qui sont extrêmement particulières et qui sont lourdes à gérer.
Est-ce que toi, à l'époque où t'es jeune, t'arrives, tu commences à cirer deux, trois joueuses au-dessus de toi, tu commences à agacer un petit peu ou à inquiéter? Est-ce qu'on t'a déjà mis des petites séances d'intimidation du genre écoute cocotte, tiens je vais te bousiller le cerveau avant que tu rentres sur le court? Est-ce que il y en a qui ont essayé de jouer le match avant dans le vestiaire avant d'entrer sur le court?
Alors j'irai pas jusque là, mais effectivement des ambiances tendues dans le vestiaire, ça de manière certaine. Et puis surtout, il faut quand même se dire, on a tous un peu nos rituels, la douche porte bonheur, le casier porte bonheur.
C'était quoi ton rituel? Parce qu'on connaît tous le rituel de Raphaël Nadal.
Oui, mais Rafa,
sur le court.
Rafa,
mais je me doute qu'il y en avait plein avant.
Exactement.
Aussi pour lui.
Donc Rafa, il avait son casier qui était alloué à Roland-Garros. C'était son casier, bien évidemment, personne
toujours le
prendre.
Même, ouais.
Toujours le même. Mais avant d'arriver à avoir la cote de Rafa, bah, si tu veux, on te donne le casier, bah, qu'on te donne. Et donc c'est vrai que c'était la bagarre pour savoir qui allait avoir le casier que tu voulais, qui te l'avait pris à l'avance, parce que si jamais la fille elle arrivait plus tôt dans le vestiaire, bah du coup elle te piquait ton casier, elle savait bien que c'est le casier que tu voulais, donc elle te le piquait aussi.
Mais dans un vestiaire collectif, c'est pareil, hein,
donc
c'est
ça,
tout le monde
assez loin.
À sa place.
Oui, bien sûr.
Même l'intendant, il t'amène si t'as besoin
chacun de sa place, ouais.
De chacun. Ouais. Tu sais qu'il y a des joueurs qui ont besoin de rentrer très vite sous la, du moins dans l'espace qui est réservé à la douche pour s'échauffer individuellement, mentalement. Il y en a, tu les surveilles parce qu'ils vont faire des conneries.
Et beaucoup
parce que là aussi il y en a eu un paquet. Donc non,
c'est aussi l'esprit du rugby aussi.
Le seul moment où tu pouvais, c'est quand tu sortais du vestiaire collectivement et tu faisais le tour un peu, soit les 50 qui te sont alloués pour t'échauffer, ou si tu t'amusais à faire un grand tour et passer devant ton adversaire. C'est le seul moment où on pouvait être vraiment en confrontation.
Mais par exemple, je vais citer une anecdote. On est à Roland Garros, tous les joueurs, mais tous, Rafa, Roger, Novak, même Serena, les plus grandes stars, on va tous manger au restaurant qui est situé au-dessus, et puis tu vas ensuite préparer ton match, etc. Bah, y en avait une, on va pas la citer.
Si, tu peux. Tu peux, t'as le droit.
Je risque rien. Maria S.
D'accord. Ah bon?
Qui vous laisse se faire livrer la nourriture dans le vestiaire.
Ah oui.
Et donc, elle refusait d'aller monter manger avec tous les autres joueurs ou tous les autres joueuses. Il fallait qu'elle mange dans son canapé qui était réservé toujours dans le même coin, en train de regarder les matchs, et qu'on lui descende le plateau. Et je peux te dire que la tête de l'intendante du vestiaire, qui était une amie que je connaissais depuis extrêmement longtemps, quand à chaque fois elle entendait toquer en disant « C'est le plateau de Maria, Paulina, le plateau pour manger. » Mais c'est vrai qu'on l'a regardé, qu'on se disait quand même si Serena, elle peut aller manger là-haut, que Roger ou Rafa ou Novak qui vont manger là-haut, bon, éventuellement, tu vois, tu pourrais éviter peut-être.
C'était pour pas se mêler à tout le
monde.
Exactement.
Pour pas se mêler à tout le monde,
bulle,
pour
non
avoir le traitement.
Son rituel à elle aussi.
Voilà,
c'est l'école russe.
Oui, différent.
La Maria à laquelle
non,
je pense.
Rester dans sa bulle.
A priori, mais quand t'es la seule. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, quand tout le monde fait autre chose,
sûr.
Parce que alors, si on se met tous à se faire livrer les plateaux repas à l'intérieur du vestiaire, on va peut-être y avoir un petit souci.
Bah, vous allez tous manger ensemble, mais dans le vestiaire, au final.
Tu vois, faut remonter les assiettes, les plateaux, les couverts, faut tout remonter.
Ouais, enfin, je pense pas. Je voulais parler de la puissance des mots dans un vestiaire. Alors, de rugby, peut-être plus qu'ailleurs, mais parce que nous, on est une équipe, et il y a un entraîneur, il y a un coach, il y a des capitaines, des leaders de jeu. Et la puissance des mots. Moi, j'ai une anecdote, c'est en demi-finale de la Coupe du Monde, on joue en Australie, demi-finale, et on est accueillis comme... en fait, les Australiens se projetaient déjà sur la finale. Ils disaient, on va battre les Français, ouais, ces petits Français. Et sur un petit terrain, il y avait 30 000 personnes. Sur une demi-finale de Coupe du Monde, ils avaient reçu comme une petite équipe d'une petite nation. On était quand même en demi-finale de la Coupe du Monde. Et nous, on se retrouve dans le vestiaire. Et Pierre Berbizier, qui était pas capitaine, puisque c'était Daniel Lubroca, mais il était capitaine, leader de jeu, demi de mêlée, avait eu ces mots incroyables, parce qu'on avait été traité toute la semaine comme une petite équipe. Et nous, c'était quand même, alors c'était pour nous un levier terrible de motivation,
bah,
c'est vrai. Et il avait sorti cette phrase, et c'est pour ça que je reviens à la puissance des mots. Il avait dit, ils ont tué l'événement, à nous de le recréer. Wow. Il l'a dit, j'en ai les frissons de le dire, parce qu'il l'a dit juste avant qu'on rentre sur le terrain. Il a pris tous les joueurs, et c'était phénoménal, parce qu'en fait, c'était ce qui s'était passé. Et lui, il avait trouvé les mots justes. Tout ce qu'il fallait dire, il l'a dit en cette phrase qui est toute petite, mais...
Qui a tout résumé.
Qui a tout résumé, ouais, et qui nous a galvanisé.
Après, dans le déroulé, il y a la causerie du coach qui est plus d'une heure et un quart avant, mais quand on arrive dans le vestiaire, qu'on revient de l'échauffement, les coachs, du moins le cas de Guinoves, ne parle plus. C'est terminé là.
C'est entre les joueurs.
C'est entre les joueurs.
Non, mais il y a des talks qui sont mythiques dans les vestiaires.
Il y a Bernard Laporte. C'est pas pareil. C'est une mi-temps.
Pep Guardiola qui fait des talks sur. Mais c'est des joueurs de Manchester City quand ils ont perdu en disant l'académie elle est prête si vous voulez si vous n'êtes pas content. Qui regarde chaque joueur dans les yeux, t'as tous les joueurs qui regardent par terre et qui osent pas dire un mot. Enfin, t'as des moments mythiques.
Jacques Fouroux, qui était un entraîneur mythique. Jacques, il parlait au gros. Jacques faisait 1m58, je crois. C'est ça, non? Au 62, je crois 58, tout petit, mais il faisait pleurer les grands.
Il y a Tony Parker à la mi-temps de l'Euro de basket.
Ils sont en train de nous respecter.
C'est entre le contexte et cette intimité.
Et la phrase de Guinoves, c'est « je changerai aucun joueur pour un joueur d'en face ». Pour nous mettre en confiance.
La fierté,
Vous êtes des choisis, vous êtes capable de représenter le club, donc je ne changerai personne. Bon, moi, quand je jouais Rougerie Dominici, je me disais, si vous pouvez avoir dans l'équipe,
c'est aussi ça, un grand coach aussi.
Bien sûr.
Rarement, mais c'est ça, la dimension d'un grand coach. C'est pas que savoir trouver la stratégie.
Mais c'est aussi par des mauvaises paroles et justement à l'inverse, à contrario, puisque là, on revient sur ce documentaire qui vient de sortir. C'est aussi quand tu n'es pas capable de gérer tu peux faire complètement couler une équipe.
Absolument.
Donc c'est totalement.
Un individu qui prend trop de place.
Ah. Oui, mais en fait, tu fais couler tout un esprit d'équipe. Enfin, je veux dire, moi, là, j'ai lu des déclarations, effectivement, puisque c'est public, je n'invente rien. Quand on voit ce que Raymond Domenech a été capable d'écrire dans son journal de bord sur certains joueurs,
c'est ça qui est fou.
Enfin là, j'en tombe par terre de ma chaise.
Mais on m'a dit mais c'est dans son journal intime. Mais moi, je pourrais pas écrire des choses comme ça.
Dans un journal intime. Non, mais c'est horrible. C'est-à-dire que tu penses ça de tes propres joueurs que tu as sélectionnés. C'est ça qui est terrible.
Bisounours quand même. Il doit. Il a le droit de
dire ça.
Non, j'ai pas dit qu'il avait le droit.
Non, mais arrête.
Il peut pas.
On parle quand même de joueurs d'équipe de France.
Publier. C'est fou, hein, moi.
Mais est-ce qu'il a le droit de l'écrire aussi?
Exactement.
C'est ce que je dis, il n'a pas le droit de l'écrire.
De l'écrire dans un journal intime. Ouais. C'est ça qui est fou.
Normalement, un journal intime, ça ne sort pas.
Et lui, quand même, vous savez quoi? Vous écouterez les GG demain, parce que ce sera l'objet d'un débat. On aura Pascal Duprat notamment avec nous, donc je pense qu'on pourra en parler longuement et vous écouterez ça, évidemment.
On a le droit de donner une citation ou pas de son journal?
Vas-y, si tu veux.
Gourcuff, mais qu'il est con, Otis Léger est con ensuite.
Ça fait beaucoup.
C'est quand même pas mal.
Ça s'attaque à un handicap. Pascal Duprat, remettez la causerie qu'il a.
Exactement. Pascal Duprat aurait été parfait là-dedans.
Je l'ai encore regardé parce qu'elle me met les frissons à chaque fois.
Pascal,
c'est la quintessence du manager, de l'entraîneur qui arrive à sublimer ses joueurs par un biais émotionnel.
Exactement.
Pascal, qu'on va retrouver bientôt.
Dans les paris.
Eh oui, dans les paris. Notre ami Pascal,
une demi-heure.
Pascal,
un peu de patience. Il est 11h27 sur RMC. Les grandes gueules du sport reviennent dans quelques instants. On va refermer la porte du vestiaire. Mais on va, sur le buzzer, parler du meilleur ami de Marion Bartoli, Max Verstappen, évidemment.
Oh non.
Les jeux du sport qui arrivent juste derrière.
Tu peux me cacher ma dernière demi-heure.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Flora Moussi. Il est 11h31 sur RMC, les grandes gueules du sport continuent jusqu'à midi, les jeux du sport dans quelques instants avec un cadeau exceptionnel à gagner, on vous le rappelle, c'est cette enceinte Bluetooth portable de la marque française Muse, votre party box, une enceinte puissante avec lumière d'ambiance multicolore et un micro filaire. Pour la remporter, vous appelez le 3216 touche 4 ou vous envoyez sport au 7 3216. J'espère que vous êtes prêts tout de suite, on va parler de Formule 1, c'est la pause en ce moment, vous le savez, les monoplaces seront de retour le week-end prochain au Canada, mais visiblement, la pause était trop longue pour Max Verstappen qui a eu besoin d'un peu d'aventure.
RMC, les GG sur le buzzer.
Le pilote néerlandais est en ce moment en Allemagne pour une course d'endurance, les 24 heures du Nürburgring, départ aujourd'hui à 16h et arrivée donc demain à la même heure. Le tout, vous l'avez compris, en pleine saison de Formule 1 et alors que lui et son écurie Red Bull ont de grosses difficultés en ce début de saison. Nicolas Paolorsi est avec nous ce matin. Salut Nico.
Salut les GG, salut à tous.
Salut Nico.
Alors dis-nous tout, parce que Verstappen fait évidemment ça dans les règles, hein, et on sait qu'il a une affection particulière pour l'endurance.
Oui, c'est pas une surprise de voir Max Verstappen s'évader un petit peu de la Formule 1. Déjà, ça fait quelques mois qu'il clame un peu son désamour pour cette nouvelle réglementation. Il y a une donnée très importante avec Verstappen, c'est qu'il est en fin de contrat avec Red Bull en 2028 et que il y a eu quelques zones de tension avec son écurie depuis plusieurs mois maintenant, depuis une grosse saison entre l'ancien boss Christian Horner et le conseiller spécial Helmut Marko. Il y avait des clans et l'avenir de Verstappen était clairement en suspens. Alors quand Verstappen a dit qu'il avait envie de faire autre chose que de la Formule 1, forcément Red Bull a accepté. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas un pilote malheureux du côté de Red Bull. Et puis on sait que les pilotes de Formule 1 ne sont pas tout le temps en train de développer leur voiture, de travailler dessus. Il y a des pilotes de réserve en F1 qui font ce boulot-là, donc ils ont pas mal de temps libre. C'est pas le seul pilote à l'avoir fait dans l'histoire de la F1 hein. Moi je pense à Fernando Alonso qui a été champion du monde en Formule 1 et qui a gagné les 24 heures du Mans en 2018 et en 2019. Il était également en contrat avec une écurie de F1. Et on sait que Max Verstappen, tu le disais Flora, il est ultra présent dans le sport auto. Il a monté son écurie d'endurance là pour rouler sur ses 24 heures du Nürburgring. Il a monté une équipe de sim racing. C'est du simulateur ultra réaliste avec laquelle il pilote énormément. Donc voilà, il a plein de projets, plein de passions autour du sport automobile. Il veut vraiment goûter à tout. Il peut faire partie de ces pilotes là, Max Verstappen, qui essaye de gagner en F1 au Mans et également peut-être en IndyCar. Voilà, ça fait partie un petit peu de ses objectifs de carrière.
Tu restes avec nous évidemment Nico. Les GG, est-ce que ça vous semble normal qu'en pleine saison de Formule 1, Max Verstappen se permette d'aller faire une autre compétition? Je vois le regard de Mario. Je t'écoute Mario.
Non.
Cédric.
Non.
Denis.
Oui, pardon.
Excuse-moi. Oui.
Simon.
Non, c'est pas normal. Non, non.
Très bien. Allez, Marion, j'ai envie de t'entendre sur celui que tu admires, Max Verstappen.
Oui, tellement. Non, mais en fait, moi, le problème, c'est la pleine saison. C'est-à-dire que qui fasse ça, effectivement, lorsque la saison est terminée.
On rappelle que ça reprend le week-end prochain. Hein.
Oui, et puis surtout, c'est une course extrêmement dangereuse. Très, très compliquée, puisque le circuit fait quand même 25 km de distance. Il y a, je crois, plus de 170 virages. Il y a des conditions qui peuvent être dantesques, surtout, bien évidemment, la nuit. Les murs sont très proches. Tu as une visibilité qui peut être vraiment très compliquée. Alors, même si, bien évidemment, je doute en aucun cas de ses qualités de pilote, loin de moi de déclarer ça. Mais en fait, j'ai l'impression, et on l'a entendu dans beaucoup de déclarations, que les nouvelles réformes de la Formule 1 au niveau des moteurs ne lui conviennent pas, qu'il ne prend quasiment plus aucun plaisir à piloter, qu'effectivement l'année dernière il n'a pas été champion du monde, que c'est un immense champion et bien sûr un gagneur, et que en fait de sentir qu'il gagne beaucoup moins, voire qu'il n'est pas dans la course en tout cas pour cette année pour aller être champion du monde, je pense que ça crée énormément de frustration et qu'il se dit de toute façon la saison elle est pliée, c'est foutu, je vais pas y arriver, donc je vais m'amuser dans des trucs qui finalement pour moi sont plus intéressants, sont plus challengeants, où on m'attend pas, et donc même si c'est en pleine saison je m'en fous, je prends le risque, mais
Moi, je suis d'accord avec Marion, mais il y a un truc, c'est que la Fédération internationale de F1, là, il se pose pas des questions hein, quand tu as des immenses champions.
Mais apparemment, tu as le droit.
Contractuellement, il.
Tu as le droit. Hein.
Il peut.
Si son écurie.
Il a le droit, parce que c'est Nico qui va nous éclairer.
Il a le droit parce que son écurie le laisse.
Mais oui, l'écurie est d'accord.
Mais bien sûr.
Mais en fait, c'est un aveu.
Ils ont des plages de repos en F1, donc voilà, il y va quand, sur ses plages de repos, sur son repos perso.
Moi, je pense pas que ce soit une aveu de faiblesse.
Il a fait autre chose que de la F1.
Mais moi, je pense. S'il était premier là et qu'il était leader de F1, il irait pas.
Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un pied de nez, c'est tout.
Ah, ça, je suis d'accord. Je te rejoins sur. C'est-à-dire que les nouvelles réformes aujourd'hui de la Formule 1.
Je vais voir ailleurs, mais je suis d'accord.
On est quand même d'accord que s'il était aujourd'hui premier au classement de F1, il serait pas en train d'aller faire cette course, tu vois.
Oui, je suis pas sûr du tout, Marion.
Les autres années, il les a faites.
Je pense pas que s'il était en contention au sommet du classement.
Ça fait deux ans, même trois désormais, depuis 2023, qu'il dit j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire le Nürburgring parce que c'est une course mythique. Verstappen, c'est un pilote, c'est un pur pilote, c'est ce qu'on appelle un racer, c'est un mec qui veut se mesurer à toutes les plus grandes courses du monde. Donc, dès 2023, et il était à son prime en 2023, il avait la meilleure voiture, il gagnait tout.
Et pourquoi il n'a pas fait cette année-là,
tous ces titres de champion? Parce que ça s'est mis en place. Il faut un programme de développement. Pour rouler sur le Nürburgring, il faut que tu passes un permis spécial. Même quand t'es un quadruple champion du monde de F1, Verstappen, il a dû passer un permis spécial parce que tu l'as dit, le circuit est très spécial, très compliqué. Donc, lui aussi, il a dû rouler dans des voitures où il, pas puissante du tout, où il s'est fait dépasser pour passer son petit permis AT là, c'est un permis bien spécifique. Et que voilà, le projet s'est mis en place là. Il faut quand même aussi rappeler que Verstappen, il est peut-être à la ramasse depuis le début de saison, mais à Miami lors de la reprise de la saison là, il y a deux semaines, il a fait sa meilleure course de l'année aussi. Donc il est pas complètement en train de lâcher les chevaux en F1 et voilà, hein, il est pas totalement démobilisé.
Bah, on est d'accord que tous les autres pilotes qui ont couru en F1 depuis toutes ces années sont quand même aussi passionnés de sport automobile. Le seul qui a participé à cette course, c'est Niki Lauda, et qu'il avait gagné 2 ans avant d'être champion du monde de F1.
Ah ouais, mais je suis pas sûr qu'ils soient tous mordus comme les Verstappen à avoir mais des écuries en racing. Dès qu'il sort de sa voiture, sa seule passion, c'est piloter. Verstappen, oui, mais... c'est piloter. Il y en a plein qui ont des passions extérieures, tu vois, comme vous quand vous étiez sportif. Lui, ce qu'il veut, c'est rouler.
Enfin, là, alors, il l'a fait en simulateur pendant longtemps parce que il est 7e au championnat à 26 points. Antonelli, il est 100 points
de la tête. Non, mais Nico,
il a pas la voiture. Il a pas la voiture, les amis. Vous savez comment, quand t'as la 4e voiture du plateau, tu peux faire tous les miracles du monde. Tu peux pas monter sur le podium.
Donc, c'est la situation qui le fait prendre.
Exactement.
Simon. Nico, je parle sous ton contrôle. J'entends ce que tu dis. Il a le sport auto qui coule dans les veines. Très
et c'est
bien.
Vrai, ça, par mais, contre. C'est une vérité, vraiment.
Je veux dire, c'est comme le néo numérique. Il dit quand même quelque chose à son écurie. Je veux dire, avec ça, en gros, il leur dit. Et ça dit quelque chose du fonctionnement qu'il a réussi à instaurer chez Red Bull. Bon, en gros, les cocos, tant que vous ne faites pas une meilleure bagnole, moi, je vais aller m'intéresser
à du tout. Je pense que ça va plus loin que ça, Simon.
Directeur
non, mais ça va plus loin que ça.
Il dit, quand il revient, il est en pleine forme, justement.
Il a le sourire.
Oui. Il a le sourire. Bah, bien sûr. Je vois pas où est le problème.
Non, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que je pense qu'au-delà de son écurie, du message envoyé à son écurie, il l'a dit. Verstappen, il va pas essayer de rester en Formule 1 pour battre les 7 titres de champion du monde d'Hamilton ou de Schumacher. Il s'en fout. Donc si jamais il prend plus de plaisir en F1, il fera autre chose. Il fera autre chose. Non mais je veux dire, il est arrivé.
En tout cas, c'est vrai que je vous assure, Nico, il a toujours dit qu'il ne vous comptait pas durer pendant des années en Formule 1.
C'est comme Pogacar sur le tour.
Tu
as le même problème avec Pogacar sur le tour. Mais il va être encore 3-4 ans.
Donc. Nico.
Non, mais moi je reste persuadé. En plus, Verstappen, c'est pas le genre à faire de la com et à faire de la langue de bois. Ah et bon, vous l'avez bien vu depuis maintenant 3-4 ans. Ah non, vraiment pas. Pour le coup, dans le paddock, ils disent ce qu'ils pensent. Ça a été le premier à l'ouvrir sur cette nouvelle réglementation en disant que les monoplaces étaient voilà. Il a dit tout simplement, je ne prends pas de plaisir avec ces voitures-là. Il a dit, moi, de toute manière, j'ai 28 ans, j'ai envie de faire autre chose dans ma carrière de pilote. Les 24 heures du Nürburgring en font partie et je suis à peu près sûr que s'il n'y a pas un challenge qui lui convient en F1 dans les 2-3 ans, avec soit un changement d'écurie si ça se passe mal chez Red Bull ou surtout des voitures qui évoluent, vous verrez que là, dans 2 ans Verstappen il quitte la F1.
Je suis pas d'accord avec toi, je pense qu'il est toujours concerné et qu'il met un coup de pression terrible parce qu'il n'aime pas ce qui se passe, il n'aime pas ces changements là
et il sera peut-être suivi. Je suis d'accord avec Denis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la F1 ça l'intéresse plus,
et la F1 a besoin de lui aussi,
il a cherché des sensations de pilotage et aujourd'hui il considère peut-être qu'en F1 il a plus ces sensations.
Exactement. Après moi j'aimerais quand même souligner une chose avec toi aussi, Nico. On parle justement de son esprit de pilote. Au-delà de ça, c'est un compétiteur énorme. Donc, il fait pas ses 24 heures pour être figurant sur ce circuit. Il y a aussi, Marion l'a rappelé, la dangerosité du tracé. Il y a un facteur risque qu'on ne peut pas non plus ignorer et que Red Bull ne peut pas ignorer non plus, Nico.
Mais ça, Red Bull ne l'ignore pas. Et d'ailleurs, Red Bull a pendant longtemps interdit Verstappen de rouler sur ce circuit-là. À l'époque, Red Bull avait un projet un peu marketing de faire une démonstration avec une Formule 1 sur le Nürburgring. Ils ont interdit à Verstappen d'y aller parce que Verstappen, dans un coin de sa tête, il savait très bien que, enfin, l'écurie savait très bien qu'il voulait taper le record historique du circuit. Donc ils lui ont dit c'est trop dangereux, tu vas pas y aller. Donc ils ont pas fait la démonstration. Donc bien sûr que Red Bull est consciente de ça. Le problème de Red Bull, c'est qu'elle veut garder Verstappen le plus concerné, le plus
Nicolas,
longtemps possible en F1.
Et surtout, la Formule 1 peut garder la
loi. Bien sûr.
Il dicte pas sa loi. Ça fait 10 ans, ça fait 10 ans qu'il est en F1. Ah bah oui, là actuellement Max Verstappen est plus fort que Red Bull. Oui, bah ça c'est une certitude, c'est le meilleur pilote du monde. Donc si jamais il décide de partir, il y a toutes les écuries qui sont à ses pieds. Oui, là ça je te confirme qu'il est plus, je vais pas dire qu'il est au-dessus de l'institution, mais le poids de Max Verstappen actuellement est bien plus grand que Red Bull Racing.
Merci beaucoup Nico. Bah du coup on aura un œil sur ces 24 heures du Nürburgring. On verra bien ce que fait Max Verstappen sur le circuit en Allemagne.
Merci.
effectivement, et retour de la Formule 1 dès le week-end prochain, ce sera au Canada. Allez les GG du sport, il est 11h42, bientôt le repos, juste avant c'est le jeu. Non, Denis ne cherche pas à tricher, il regarde mes feuilles. On revient dans quelques instants pour la suite des jeux. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussi. Il est 11h45 sur RMC, vous êtes bien dans les grandes gueules du sport avec Simon Dutin, Cédric Emmons, Marion Bartoli et Denis Charvet. On arrive sur la fin de l'émission. Je vous rappelle que les deux premières heures sont déjà retrouvées sur toutes les plateformes d'écoute en podcast. J'espère que vous êtes prêts, que vous vous êtes aiguisés, mes GG. C'est parti pour les jeux du sport.
RMC, les jeux du sport.
Alors, vous ne voyez pas ce qui se passe en plateau, évidemment, mais ils sont tellement studieux. Ah oui. Je les ai jamais connus aussi calmes et concentrés, parce que je sens que c'est le moment clé un peu de l'émission.
Je veux pas
là.
Perdre, surtout.
C'est-à-dire que ça va un petit peu avoir une incidence sur l'humeur du reste de mon week-end.
Ah, carrément. Tu vois, carrément.
Soit on a envie que tu passes un bon week-end, soit on n'a pas envie que tu passes un bon.
Vous êtes comment généralement sur
soit
les jeux?
Soit je refuse de jouer à ce jeu la saison prochaine.
Moi, plutôt très nul.
Moi, derrière Bennett,
ouais, y a personne
c'est moi
derrière
le meilleur. Le
c'est
meilleur
vrai
content, ouais.
Denis.
C'est moi le meilleur.
Modestement.
Le meilleur.
Et Marion, t'es plus
non, je suis catastrophique.
Ah, moi, je peux plus créer la surprise, tu vois.
Très bien. Je vous explique quand même le principe. C'est du 2 contre 2. Et vous allez défendre un auditeur qu'on va accueillir dans quelques instants. Là, le premier grand moment, c'est la répartition.
Mais moi avec Denis, parce qu'il peut gagner à chaque fois.
Eh bien, exactement. Ah. Voilà. Denis, Marion, ah,
c'est
Cédric.
Bon,
Marion. Bah, t'es avec Simon, c'est bon.
Ah non, mais moi, là, c'est.
Regarde,
c'est, ça
gagne.
Regarde le sourire.
Regarde, il est trop content.
J'avais peur d'être avec Marion.
Je suis ravi de combattre les deux dans ce robot-là.
Mais c'est horrible.
Ça va pas
mais c'est horrible.
Ouais, c'est horrible.
Par contre, attention, je vais être clair sur une chose. On retourne les téléphones. On ne se sert pas des téléphones, s'il vous plaît.
Regarde, on tourne et on retourne.
C'est mon oncle qui m'écrit. Hein,
non, tu tournes.
J'ai pas de 4G moi dans le studio.
Oui, oui,
moi j'ai besoin d'avoir des nouvelles de ma fille.
Hop. On ne triche pas. On va accueillir les deux auditeurs du jour. Ivan et Grégory qui sont avec nous ce matin. Salut les gars.
Salut.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez gagner une enceinte Bluetooth Party Box de Muse, une enceinte puissante avec lumière d'ambiance multicolore et un micro filaire. Je vous rappelle les règles aussi, je vais vous poser des questions. Parfois, une seule réponse ne sera autorisée, parfois plusieurs. Il y aura aussi la question impossible qui, on vous le rappelle, est activable par un seul joueur par émission. Il est le seul à jouer de son équipe. Une bonne réponse, c'est 3 points. Une mauvaise réponse enlève 1 point à toute l'équipe. Vous êtes prêts?
Oui.
C'est Ivan qui a appelé en premier, qui choisit donc son équipe aujourd'hui. Ivan, avec qui tu veux jouer? Cédric Simon ou Marion Denis?
Cédric Simon.
Ok.
Bah, t'as pas envie de gagner, toi.
Bien, Ivan.
Je dis rien parce que je pense.
Voilà, le plus dur est fait, Ivan.
Et du coup, Grégory est avec Marion et Denis.
Allez, Greg.
Greg, on va faire notre max, hein, promis.
Allez.
Vous êtes prêts?
Oui,
on
y
est.
Allez, première question à une seule réponse. Donc, attention. Combien de fois l'équipe de France de rugby féminin a remporté le tournoi des Six Nations? Mauvaise réponse.
Je n'ai pas entendu sa réponse.
Mauvaise réponse.
Deux fois.
Mauvaise réponse.
Une fois.
Mauvaise réponse.
Mais non, zéro.
Six. Six, c'était une bonne réponse.
Denis.
Voilà, désolé, Ivan.
Simon.
C'est pour toi,
tu sais pourquoi je te regarde?
Non, c'est pour toi, le rugby.
Parce que j'avais la jeu.
Oui. Tu ne m'écoutes pas,
oui,
en fait.
C'est vrai,
voilà.
Oui.
Parce que, alors sachez, et c'est un hasard absolu, mais Simon a déjà eu cette question dans le RMC Sport Club lundi.
Oh là là,
Non. Question à plusieurs réponses. Ah. Qui a dit félicitations à tout le monde, vous avez réussi votre objectif de jouer la Ligue 1 la saison prochaine. C'était vraiment une magnifique saison. Amusez-vous, c'est un jour spécial pour Le Mans. Allez Le Mans.
Ah, Djokovic.
Bonne réponse.
Ouais, on l'a dit en même temps.
Tous les deux en même temps. Eh oui, mon petit Comment Simon. Eh oui.
Là, on était sur une voie concordante.
Oui, oui, oui.
Team Marion, Denis. Effectivement, ça fait un zéro pour vous. Attention, question auditeur. Ivan et
allez,
Grégory.
Allez, Greg.
Vous donnez votre réponse et votre prénom juste après pour savoir lequel de vous deux a répondu. Quel gardien du Paris Saint-Germain n'a finalement pas été sélectionné par Didier
Chevalier
Deschamps?
Greg.
Oui, bravo, ouais, Lucas,
c'est parti.
Effectivement, c'est Lucas Chevalier. Ça fait 2-0 pour
l'équipe. Préparez la
team.
Question impossible, parce que...
on y réfléchit.
2-0 pour la team Denis Marion. Simon, je croyais que t'étais bon dans le quiz.
Je suis pas bon, je suis excellent dans
le quiz. C'est le moment de le prouver.
Allez.
Question à une seule réponse. Quel Français a déjà remporté deux étapes sur le Tour d'Italie?
Paul Magnier.
Ouais, oui.
Réponse.
Paul Magnier.
Merci Cédric. Ça fait 2-1. Question à une seule réponse. Quel club de Pro D2 est toujours invaincu à domicile?
Van, ouais.
J'ai pas vu d'où est venu.
Large,
là,
large.
Ah, mais pardon, oui, pardon. Mais si tu n'attends pas que je finisse la question, Simon.
Mais il attend jamais.
Ça fait 2 partout.
Exactement.
2 partout, effectivement. Question auditeur. Ivan Grégory, c'est peut-être qui allait faire la différence. Je vous rappelle que donnez-moi votre prénom
toi,
aussi.
C'est pour toi.
Vas-y, Greg.
Quel entraîneur est pressenti pour reprendre les rênes du Real Madrid?
Je sais.
Didier Deschamps, Greg.
Non.
Mourinho, Greg.
Mais
oui,
bien, Greg. Ils ont droit à plusieurs réponses, les autres.
Mais
oui, bien
Mais
sûr.
Sûr.
Maxime,
Je n'avais pas énoncé la réponse. Calmez-vous. Je n'avais pas énoncé la règle d'une seule réponse.
Oui. Voilà, je n'ai pas essayé.
Donc c'est validé. Bah, donc, c'est
validé. Vraiment bah, envie que Marion passe un excellent week-end.
Mais Ivan casse le téléphone, là. Moi, je ne sais pas. Là, mais...
Ça fait 3-2 pour la team Marion Denis. C'est serré ce matin. Attention, question à élimination.
Je fais de la ventilation.
2 points. Cédric lève les yeux au ciel. Attention. Vous répondez chacun votre tour. Une erreur et vous êtes éliminé. Donnez-moi tous les clubs champions de France de Ligue 1.
Oh là là.
Simon.
Le PSG.
Cédric.
Monaco.
Marion.
Marseille.
Denis.
Saint-Étienne.
Oui. Simon.
Bordeaux.
Oui.
Lyon.
Oui.
Lens.
Lens est une bonne réponse. Denis.
Montpellier.
Montpellier est une bonne réponse.
C'est à moi ?
Oui.
Le FC Nantes.
Bonne réponse.
Reims.
Bonne réponse.
Merde.
Auxerre.
Bonne réponse. Denis. Ça commence à se...
Nice.
Bonne réponse. Simon. Trois, deux, un. Au revoir, Simon. Cédric.
Lille.
Bonne réponse.
Non, Lille, ça a été...
Non.
Ah non.
Ça n'a pas été ni. Okay.
Marion.
Le Red Star.
Non, je n'ai pas le Red Star.
Non.
Denis. Il reste plus que toi et Cédric.
Allez, Denis.
Sedan.
C'est bon.
Non.
Oh. C'est bon, c'est moi qui ai donné la dernière
réponse. Il faut que tu en donnes une.
Je donne une. Il l'aura pas. Laisse tomber.
Bah, a priori, ah non, on me dit que c'est bon puisque tu as donné la réponse.
Voilà.
Ah non, non, la dernière fois.
Non, non, non.
Ah non,
la dernière fois,
oui, bonne réponse. Bah ouais.
Voilà. Allez, zou.
Voilà, comme ça, on a mis tout le monde d'accord. Ça fait 3-3.
Ah non, on avait dit Monaco.
Ça fait 4-3.
Oui, Monaco,
c'est
dit.
Monaco, c'est en deuxième.
Ouais.
Attention, on continue. Question à une seule réponse. Qui est troisième de Ligue 1?
Lyon.
Non.
Lille.
Oui, bonne réponse.
C'est pas possible, Simon.
Bravo, Marion.
Question auditeur.
Pas possible.
Ivan Grégory.
Allez, Greg.
C'est déterminant.
C'est pour toi, Greg.
Qui est le numéro 1 français au classement ATP?
Tu l'as.
Oui.
Oui, Greg.
C'est Greg.
Je t'aime fort, Greg. Je t'aime très fort.
Mais Ivan, il a raccroché, je crois.
Allô, Ivan.
Il est plus en ligne, je crois.
T'es là, Ivan.
Je t'aime très fort, Greg.
On enchaîne. Question à une seule réponse. Quel est le championnat du top 5 européen qui ne connaît pas encore son champion?
L'Italie.
Bonne réponse.
L'Angleterre, ben oui, Arsenal et Manchester.
Mais oui, c'est vrai, l'Italie, c'est
5-5. Attention, tout se joue sur cette dernière question.
5-5.
Ça va, j'aurais bien joué quand même.
Tout à fait.
C'est vrai.
Question à plusieurs réponses. Qui a été élu meilleur espoir de Ligue 1?
Doué.
Oui.
Et du coup, Grégory, aussi, tu repars du coup avec ton enceinte Partybox. Félicitations à toi, Grégory, Marie-Marcelli.
Jouer sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platines vinyle et plus encore. À découvrir sur muse-europe.com.
Je sens que je vais retrouver un Simon Dutin en feu demain.
J'avais la coupe dans les mains là.
Là, Lyon, il était.
Destination Lyon.
On a trop regardé la coupe. C'est quand même mon prière.
Merci à tous les GG. Merci Simon, Cédric, Marion, Denis d'avoir été avec moi ce matin. On se retrouve évidemment demain dès 9h pour un nouvel épisode des GG du sport avec une nouvelle team au programme. Vous restez bien évidemment à l'écoute d'RMC. Dans quelques instants, c'est les paris RMC avec Christophe Payet, Pascal Duprat, Lionel Charbonnier qui vont me rejoindre. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.